la minute du CIDFF.
Dépression, troubles borderline, hystérie, burn-out, anxiété, bipolarité. Derrière les diagnostics en santé mentale, il y a aussi des normes sociales et souvent une norme genrée. Pourquoi les femmes sont-elles plus diagnostiquées? Pourquoi les hommes passent-ils sous les radars? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de notre société et quel impact cela a sur nos vies? Aujourd'hui, on parle de santé mentale, mais comme d'habitude, au prisme du genre. Bienvenue dans la minute du CIDFF, du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, avec Claire qui est de nouveau avec moi aujourd'hui. Salut Claire.
Salut tout le monde, salut Ludo.
Alors, santé mentale, la grande cause nationale, paraît-il, hein, on a dit ça il y a un an à peu près, je ne sais pas ce qui a été fait depuis, je n'ai pas vu grand-chose qui a été fait, mais on va en parler aujourd'hui avec toi et sous un autre prisme aussi, hein, celui de... Du genre.
Celui du genre, pour changer. Alors oui, alors grande cause nationale, on voit bien hein, ce que ça peut donner parfois les grandes causes nationales. On en entend beaucoup parler et l'impact sur le territoire n'est pas toujours tout à fait à la hauteur de ce qu'on voudrait. Hein. On se rappelle de la dernière grande cause nationale, justement, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, voilà. On verra si celle-ci est mieux traitée avec une vraie politique et des vraies finances mises en face. Petite parenthèse faite. Alors, pour une autre parenthèse, avant qu'on démarre, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet qui est assez profond, le sujet de la santé mentale. Donc moi, je vais essayer de le traiter de manière assez rapide et assez simplifiée. Donc bien sûr que voilà, il y aura peut-être un peu de raccourcis, j'en suis désolée. Mais sinon, ça fait encore une émission d'une heure.
Oui, on est obligé.
Donc avant de démarrer, je vais au moins parler de la gestion des émotions et la santé mentale pour expliquer pourquoi je vais faire un lien entre les deux. Parce qu'en fait, là, on parle de santé mentale et moi, je vais parler d'émotions. Ben, quel rapport? Donc, ce n'est pas un raccourci. C'est pas juste je me suis dit, tiens, ça va aller plus vite. C'est parce que dans la plupart des définitions de la santé mentale, on retrouve les niveaux de bien-être psychique, cognitif et émotionnel. D'ailleurs, en prévention de la santé, on parle de plus en plus du développement des compétences psychosociales qui comprennent la faculté à gérer ses émotions. Donc, on sent bien que la gestion des émotions occupe une place quand même assez centrale dans ce qu'on appelle la santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas seulement l'absence de maladie mentale. C'est aussi notre capacité à faire face au stress, à avoir des relations équilibrées et à vivre une vie, encore une fois, émotionnellement stable. Donc on voit bien ici que la gestion des émotions, c'est central pour tout ce qu'on appelle la santé mentale. Alors, la santé mentale, ça recouvre un champ très, très large, effectivement.
C'est très large, oui.
Moi, je vais vraiment me concentrer sur ce qui est lié à cet aspect-là, l'aspect émotionnel. Donc, quel rapport avec le genre? Si je te dis, du coup, genre et santé mentale, genre et émotion, à quoi tu penses, Ludo?
Charge mentale.
Charge mentale. Alors ça, c'est une bonne idée et je t'en prépare une pour un de ces quatre sur la charge mentale pendant les vacances. Petit teasing. Mmh. Mais alors, c'est pas tout à fait ça. Alors ça, c'est une composante, ça va venir ajouter des choses si c'est pris en compte. Mais la question est là, c'est est-ce que c'est pris en compte? En tout cas, on sait bien que depuis longtemps, la médecine mentale considère les femmes comme plus fragiles, plus sensibles, plus instables, plus émotionnelles et donc, de fait, plus enclines à avoir une santé mentale dite dégradée.
Et dès le plus jeune âge, on en a parlé dans plusieurs émissions.
On en a parlé. Donc ça, on le sait aujourd'hui, puisqu'effectivement, on en a parlé. C'est ni un constat scientifique, ni une réalité biologique. Mais en fait, ça reflète bien un biais dans le regard médical qui est nourri par les normes de genre et les stéréotypes. Donc c'est un héritage patriarcal, je pense qu'on n'a pas besoin de le réexpliquer, qui repose entre autres sur le stéréotype, encore une fois qu'on a déjà bien discuté ici, le fait d'apprendre aux enfants que pleurer, c'est un truc...
De femme, de fille.
D'accord? Ne pleure pas comme une fillette, pleurer pour un mec, c'est de la faiblesse, etc., etc. Donc on n'apprend pas suffisamment aux garçons à exprimer et à accueillir leurs émotions comme la tristesse, ou bien alors à gérer leur colère. Et par contre, on apprend aux filles l'empathie, la réserve, ne pas faire trop de bruit, etc., etc. C'est quoi le résultat? Eh bien, c'est comme d'habitude, à double standard, double résultat. D'accord. Donc du côté des hommes, eh bien, les hommes expriment, voire identifient moins leur détresse et sont donc moins diagnostiqués. Donc ils sont souvent en souffrance, mais sans jamais passer par la case soins. Parce que pleurer est interdit et parce que se plaindre, c'est être faible, les hommes consultent moins, beaucoup plus tard et parfois même trop tard. Deuxième effet, comme on légitime la colère des hommes, que l'on va parfois jusqu'à banaliser leur violence, eh bien on repère moins des troubles dépressifs ou anxieux qui se manifestent notamment par une forte irritabilité, des réactions de violence, des addictions, etc. Donc c'est normal, c'est des mecs, ils réagissent comme ça, c'est du fait de leur genre. On ne va pas se poser la question de s'il y a un trouble derrière. Mais en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'il faut savoir que les hommes représentent 75% des décès par suicide en France. Parce qu'on passe sous les radars, parce qu'on ne gère pas ses émotions de la même manière, parce qu'on est moins écouté ou parce qu'on va moins consulter.
C'est étonnant comme chiffre, oui. 75%, c'est énorme.
Et oui, parce qu'en fait, comme la souffrance des femmes paraît faire plus de bruit, on l'entend plus, on la voit plus, on en entend plus parler, on met le focus dessus, et bien la souffrance des hommes, elle est silenciée. Le patriarcat et ses injonctions rendent les hommes invulnérables en apparence, mais les tuent en silence. Alors évidemment, on a parlé des hommes, on va aussi parler des femmes. Qu'est-ce qui se passe du côté des femmes ? Eh bien, pas mieux. Si elles, à l'inverse, sont souvent surdiagnostiquées là où les hommes sont sous-diagnostiqués, elles sont aussi très vite stigmatisées et étiquetées. L'histoire de la psychiatrie est d'ailleurs très révélatrice par rapport à ça et très marquée par la figure centrale de la femme hystérique qu'il fallait enfermer. C'est pas un cliché qui est seulement ancien, hein, ça se retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Mmh. Et cette psychiatrisation, elle vient aussi faire écho à une volonté de contrôle des émotions des femmes, puisqu'on leur apprend à se taire et à faire moins de bruit. Faut qu'elles soient en contrôle. Si elles le sont pas, bah, c'est un vrai problème.
Mmh. Et c'est vrai qu'on n'a jamais entendu parler d'homme hystérique.
Et c'est ça, puisque le mot hystérique qui vient du mot utérus, en fait. Alors à l'époque, on pensait que l'utérus se promenait dans le corps et que selon où il était, eh ben, il influençait les émotions des dames.
Tiens, drôle d'idée.
Voilà. Merci.
Ah, la médecine de l'époque.
Voilà, voilà. Donc, on a un peu cette notion-là. On a très longtemps contrôlé les femmes, leurs émotions et leur corps en les enfermant, tout simplement, parce qu'elles étaient jugées comme trop vivantes, trop émotionnelles. Elles aussi en ont payé et peuvent encore en payer aujourd'hui de leur vie. Je vous conseille à ce propos l'essai « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Yon, qui raconte à travers l'histoire de son arrière-grand-mère la violence de la psychiatrisation des femmes. On a donc un surdiagnostic chez les femmes. On a des symptômes qui sont tout de suite interprétés comme de l'instabilité émotionnelle et direct, on va aller dans la suspicion d'un trouble de la personnalité. Alors qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, en plus, il y a des choses qui peuvent parfois expliquer la colère des femmes, la colère, la fatigue, notamment la charge mentale, notamment de vivre des violences, de subir des violences, etc. Donc parfois, la colère et la tristesse, elles sont légitimes et tout de suite, on va chercher à la psychiatriser, à trouver du trouble. Là où à l'inverse, effectivement, les émotions dites négatives, ça c'est un terme que je réfute, toutes les émotions sont utiles, elles sont un peu banalisées chez les hommes et là on ne cherche quasiment jamais. Donc encore un double standard. Et le problème c'est qu'on va prescrire massivement, plus massivement aux femmes, des anxiolytiques, des antidépresseurs et en fait on va s'attaquer aux symptômes qu'on a détectés, qu'on va interpréter, mais parfois on ne va pas faire attention à l'environnement social et structurel de la personne, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs. On prend moins en compte le contexte, comme tu l'as dit, violence, précarité, charge mentale, tu en parlais tout à l'heure, donc on va psychiatriser beaucoup plus vite. Être une femme en souffrance psychique, c'est risquer d'être étiquetée avant d'être écoutée. Donc les hommes en meurent, les femmes peuvent en mourir aussi, tout le monde en souffre. Donc, et encore, je n'ai pas été sur le terrain de l'autisme et du TDAH, qui est encore quelque chose de assez peu maîtrisé aujourd'hui. On sait quand même qu'il y a moins, voire beaucoup moins de diagnostics chez les filles et chez les femmes, parce que les signes sont moins visibles et sont différents de ceux des garçons. Donc, on avait parlé déjà de la santé physique et d'un traitement biaisé de la douleur. Et bien en fait, la santé mentale, c'est un peu ça. Le corps médical a des biais et on a nous-mêmes tous et toutes intégré des biais. On ne se regarde pas de la même manière, on ne s'écoute pas de la même manière, on n'est pas écouté de la même manière, donc pas diagnostiqué de la même manière. Constat assez classique, les stéréotypes de genre transportent à la fois des injonctions et des biais de regard qui nuisent à tout le monde. Ok, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On ne finit pas sans suggérer ce qu'on peut faire. Eh bien, comme d'hab, on se remet en question. On aiguise le regard, on éduque, on s'éduque. On apprend à écouter les vécus au prisme contextuel du genre. On prend conscience des violences structurelles, des violences sexistes, des violences racistes, des violences LGBTQIA-phobie, etc., qui peuvent influencer. On essaie de dépathologiser la souffrance quand, en fait, elle est sociale. On intègre aux formations médicales les risques de biais genrés dans les diagnostics et dans l'écoute. On apprend à tous les enfants à nommer, à exprimer, à réguler leurs émotions sans y poser de genre. Puisque pleurer, et ça nous on le dit à chaque intervention scolaire, pleurer c'est bon pour la santé. Si vous avez besoin de pleurer, c'est que vous en avez besoin. Il y a du boulot, mais chacun et chacune à son échelle peut en faire un petit bout. Les gars, n'ayez pas peur d'aller consulter, ça ne fait pas de vous des faibles, ça fait de vous des êtres humains.
Merci beaucoup Claire.
Mais de rien, avec plaisir.
Allez, à bientôt.
À bientôt.